Donc on va commencer l'exposé de Hélène James. Comme vous l'avez vu, elle est spécialiste dans la recherche de la biologie, en recherche de biologie du développement, précisément à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Donc une grande partie des expériences, comme partout, se fait sur l'animal, mais souvent avec un intérêt pour l'agronomie. Mais évidemment, il y a des tas de sujets qui s'ouvrent à bien d'autres choses. C'est le cas du sujet qui va être abordé aujourd'hui, puisqu'il s'agit, au-delà de la génétique, de ce qu'on appelle l'épigénétique, qui depuis quelques années prend de plus en plus d'importance dans la tête des scientifiques, c'est-à-dire d'un certain nombre de processus qui s'additionnent par rapport à la génétique, qui modifient la transmission génétique. Voilà, tout ça va être raconté par Hélène James maintenant. Je lui passe le micro.
Oups, ça commence bien, je vais tomber tous mes papiers. Bon, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction et merci surtout pour cette invitation, parce que je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Et je trouve ça super sympa de venir écouter une conférence sur l'épigénétique. Donc en fait, dans mon topo, je vais vous parler d'épigénétique. Je vais vous faire revenir un petit peu à l'école peut-être. Donc si c'est trop scolaire, surtout vous me le dites. Si par hasard il y a quelque chose qui ne passe pas sur les diapos, des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Je pense qu'on a bien marqué, c'est un débat. Donc si vous avez des questions, même sur les diapos, j'accepte d'être interrompue et de discuter avec vous. Quoi d'autre? Donc oui, comme Jean-François l'a dit, je suis donc directrice de recherche à l'INRA de Jouy-en-Josas. Donc en fait, je fais de la biologie du développement et de la reproduction. Et étant dans une unité donc de l'Institut national de recherche agronomique, je travaille plutôt sur de la reproduction animale. Mais en fait, la reproduction animale, eh bien, ça nous concerne aussi, hein, parce que nous sommes des animaux comme les vaches, les cochons et le reste de l'arche de Noé. Donc en fait, on avait intitulé. Je vais commencer par vous parler d'épigénétique, parce qu'en fait, je pense que je vous ai mis quelques pages quelques publicités concernant l'épigénétique. Et en fait, ça revient à dire quoi? Je vais vous définir l'épigénétique. Et puis, comme vous voyez là, il y a des titres genre « L'hérédité sans gène, comment l'environnement rebat les cartes ». Bien, effectivement, je vais essayer de vous expliquer aussi pourquoi on pense aujourd'hui qu'il y a un impact de l'environnement sur un certain nombre d'expressions des gènes et aussi sur le développement de certaines pathologies. Et puis, d'autres choses comme quoi il faut effectivement faire un peu attention à ce qu'on est, à notre vie, peut-être même avant par exemple, de concevoir un enfant. Alors je vais commencer par des choses très très simples pour essayer de vous amener un petit peu vers les choses plus complexes tout doucement. Donc là je vous ai mis un joli papillon et un joli cycle de papillons. Donc on part de... Oups. Alors voilà, on va commencer. De la petite larve. Et puis ensuite on va avoir toutes les étapes de métamorphose qui vont arriver à ce super papillon. Et en fait, dans ce papillon, comme pour nous d'ailleurs, ce papillon est formé de cellules que je vous ai représentées, qui sont représentées ici. Au sein des cellules, il y a des masses qui apparaissent souvent de manière un peu plus opaque lorsqu'on les regarde sous un microscope. Et si on fait un grossissement, c'est ça. Et ben, ça, c'est un noyau. Et dans ce noyau cellulaire, eh bien, il y a les chromosomes. Et donc, les chromosomes, c'est ce qu'on appelle le patrimoine génétique, l'information génétique, le génome. Et en fait, ça correspond à ces unités-là, portent tous les gènes d'un individu. Donc, ça veut dire aussi que toutes les cellules d'un individu ont exactement le même génome. Et lorsqu'on fait un développement, comme pour le papillon, en fait, on va se retrouver avec différents types de cellules. Donc, il va y avoir des neurones, des cellules musculaires, des cellules du foie. Bon, comme pour nous, hein, c'est exactement la même chose. Et ces cellules, non seulement elles ont des fonctions différentes, mais elles sont aussi organisées en organes. Et tout ça, c'est fait en fait avec le même patrimoine génétique au départ. Donc en fait, ça veut dire quoi? Très clairement, c'est qu'il y a une nécessité de sélectionner le patrimoine génétique. C'est-à-dire que tous nos gènes sont là, dans toutes nos cellules, mais chacune des cellules va, d'une manière ou d'une autre, sélectionner les gènes qui sont importants pour sa fonction. Voilà. Donc ça, voilà. Donc en fait, comment fait-on ça? Eh bien, on part d'un patrimoine génétique, qui est donc tout le même pour toutes les cellules de l'individu. Et en fait, on va apposer sur le génome des espèces de post-it qui vont dire quels sont les gènes à exprimer. Donc, donc au sein d'une cellule, une fois que les gènes sont exprimés, on a toute une synthèse de protéines. Donc, ça permet d'avoir ce qu'on appelle un protéome, donc plein de protéines, plein d'enzymes qui vont contribuer à la petite machinerie cellulaire. Et on va avoir une fonction cellulaire attendue. Alors, il y a une petite image qui est simple, c'est donc si on considère que le patrimoine génétique, c'est le livre de cuisine, les recettes, ça va être les gènes, et en fait, ça veut dire les post-it, ce sont les marques épigénétiques qu'on va apposer sur ces gènes, et pour dire si tel gène doit être exprimé, tel gène ne doit pas l'être. Ça va jusque-là, je pense que ça va à peu près. Donc, depuis pas mal d'années maintenant, les gens travaillent sur ces post-it, et donc moi je travaille sur un de ces post-it, et donc la molécule d'ADN, c'est ce qui vous est représenté ici. Donc quand on débobine le chromosome, en fait on va arriver à cette molécule d'ADN que vous connaissez, la double hélice de Watson et Crick, et en fait ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'ADN est extrêmement compacté dans les chromosomes, et la molécule en fait est enroulée sur des petites perles de collier comme ça, et ces perles là aussi c'est des protéines, et en fait les post-it, donc il y en a de deux grandes familles, on va dire, mais il y en a d'autres, donc je vais vous parler que de ces deux familles là. Donc c'est sur les petites perles d'ADN, en fait on s'aperçoit les petites perles ici de protéines, on s'aperçoit en fait qu'il y a des espèces de petits drapeaux qui se mettent sur ces protéines. Et ces petits drapeaux vont faire que les protéines sont plus ou moins condensées, plus ou moins, et les interactions avec l'ADN sont plus ou moins fortes. Et donc ça va modifier complètement la structure de la présentation de la molécule d'ADN. Donc là, vous voyez, en microscopie électronique, on est capable de voir ces petits amas de protéines avec la molécule d'ADN qui s'enroule autour. Et puis il y a une autre marque dont on parle beaucoup, c'est la méthylation. Donc c'est en fait un groupe chimique qui va carrément se positionner sur l'ADN, comme ça, de manière sur certains nucléos, enfin sur certaines bases, donc certaines molécules qui forment l'ADN, et qui vont aussi contrôler l'expression des gènes. Alors ce que vous pouvez voir là, c'est que ces modifications, ces post-it-là, ils sont sur les protéines, pas sur l'ADN. Ces modifications-là sont sur l'ADN, mais on ne touche pas à l'ADN en tant que tel. Donc, pas de mutation. Donc, les gènes sont ce qu'ils sont, et ils ne sont pas modifiés. Par contre, ces marques que l'on va pouvoir apposer vont être s'apposer au cours du temps, vont être flexibles, vont avoir des propriétés particulières, et ça, c'est quelque chose qui ne va pas toucher à la séquence de l'ADN. Et donc, je vous ai juste mis un petit peu les repères en date, c'est que la double hélice d'ADN, c'était 51, et les premières, la découverte de la méthylation de l'ADN, c'est 75, donc vous voyez, c'est pas tout jeune quand même, et les premières découvertes comme quoi il y avait des petits corps comme ça, qui ont évoqué le fait qu'on avait ce genre de structure dans les noyaux cellulaires, eh bien, vous voyez, c'était 1884 ou 1928. Donc, c'est quand même des notions. C'est pas de maintenant. Ça fait un petit moment que la science avait découvert tout ça. Et alors, ce qui avait été aussi mis en place, c'est ce concept de sélection des gènes exprimés pour dire qu'une cellule va avoir une destinée particulière. En fait, c'est un biologiste qui est un embryologiste, c'est Conrad Waddington, qui a présenté ce concept-là en 1942. Et c'était son idée, c'est qu'en fait, dans un organisme, quand on part de l'œuf, une fois fécondé, eh bien chaque cellule va avoir à choisir sa destinée d'une certaine manière. Donc il avait représenté ça sous la forme de ce paysage. La petite boule ici, c'est la cellule. Et donc en fait, pour lui, les cellules au cours du temps vont ce qu'on appelle se différencier, donc choisir un chemin. Et c'est ce que vous voyez ici, sous la forme de vallée. Et alors comment choisit-elle la cellule choisit-elle ce chemin ? Eh bien par la mise en place d'un certain nombre de gènes qui vont tirer un peu les ficelles et qui vont l'orienter progressivement. Donc ça c'était pour déterminer que donc les profils des gènes sont temporellement définis et cellules spécifiques. Et qu'en plus, ce sont on sait aujourd'hui que ce sont les marques épigénétiques qui vont être acquises et transmises dans les cellules pour conserver l'identité cellulaire. Alors, la conservation de l'identité cellulaire, c'est quand vous avez des hépatocytes, par exemple des cellules du foie, quand elles vont se diviser, elles vont toujours donner des hépatocytes. Donc, à partir de là, on va pouvoir avoir un maintien de la fonction cellulaire. Alors vous allez me dire, où est le projet parental dans tout ça ? Eh bien, on y arrive. Donc sur cette première partie d'épigénétique, ça va ? Oui ? Donc le projet parental, eh bien en fait, quand vous partez avec des gamètes, alors je vais partir de vraiment simplement, donc un ovocyte et un des spermatozoïdes, vous allez former un embryon, qui va avoir, en fait, toutes les cellules de cet embryon vont avoir un même patrimoine génétique unique. Et comme pour le papillon, on va développer un bébé avec la mise en place de tous les organes. Et ensuite, avoir un bébé qui va naître, qui va devenir lui aussi grand et qui va avoir des gamètes propres, donc spermatozoïdes pour les hommes et ovocytes pour les femmes. Alors maintenant, comment l'épigénétique s'invite dans tout ça ? Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que, ici, vous avez des cellules, spermatozoïdes et ovocytes, qui sont en fait des cellules très spécialisées, puisque c'est les cellules qui permettent la fécondation. Et le fait qu'elles soient très spécialisées, elles sont porteuses, le noyau de ces cellules sont porteurs d'informations, de marques épigénétiques très particulières, et qui les différencient complètement. Donc, les marques épigénétiques qu'on trouve dans le spermato n'ont rien à voir avec celle de l'ovocyte. Donc ça, c'est différenciation, une différence dans la nature de la marque, mais aussi dans la façon dont ces marques sont apposées sur le génome. Et évidemment, il va y avoir fécondation. Et s'il y a fécondation, il faut avoir un nouveau programme de développement, c'est le développement embryonnaire. Et pour qu'il y ait ce nouveau programme de développement, il y a un écrasement de toutes les marques épigénétiques. En fait, c'était la théorie il y a à peu près 10 ans. Maintenant, on sait que tout n'est pas écrasé, mais une grosse partie est écrasée. Et ensuite, donc, on va commencer le développement. Donc, ici, au stade, avec une apposition des marques épigénétiques qui vont être spécifiques de toutes les cellules. Là, je vous ai mis un stade particulier dans le développement qui est ce qu'on appelle le blastocyste. C'est à ce moment-là où l'embryon va commencer à s'apposer contre la paroi de l'utérus et va pouvoir s'implanter chez l'homme. C'est aussi à ce stade-là où on fait, quand on fait de la fécondation in vitro, où on transfère l'embryon. Et en fait, ce stade, c'est le premier stade de différenciation cellulaire parce qu'à l'extérieur du blastocyste, il y a des cellules qui sont positionnées vers le milieu extérieur qui, elles, vont donner le placenta. Et à l'intérieur, ici, là, il y a un petit bourgeon de cellules qui, elles, restent ce qu'on appelle pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir donner toutes les autres cellules de l'organisme. Et donc, cette première différenciation, ça veut dire que, en fait, déjà ici, à ce stade-là, donc c'est 6 jours post-fécondation chez l'homme, eh bien, à ce stade-là, les cellules périphériques n'ont plus le même programme épigénétique, n'ont plus les mêmes marques épigénétiques que les cellules qui sont à l'intérieur du blastocyste. Et ensuite, bien sûr, tout ça va se démultiplier, on va dire, de façon à arriver jusqu'à l'enfant, au bébé. Ceci dit, pendant la vie fœtale ici, il va y avoir aussi un écrasement de toutes les marques épigénétiques qui sont acquises avant la différenciation de la gonade, avant de, la, de façon à ce que on remette en place, en fait, tout le programme épigénétique en fonction du sexe, ici, de façon à acquérir, à terme, après la puberté, un programme d'épigénétique correct pour le spermatozoïde, un programme épigénétique pour l'ovocyte. Voilà. Donc, vous voyez, avec ça, en fait, c'est un vrai cycle qui se met en place. Et ce qu'on voit tout de suite, eh bien, c'est qu'il y a ici une phase cruciale, puisqu'il y a un écrasement de toutes ou presque toutes les marques. Ici, il y a une remise en place des premières différenciations, donc un impact de l'environnement utérin, voire lorsqu'on fait de la fécondation in vitro de la culture de l'embryon, qui est extrêmement important. Ensuite, ici, ça va être toute la phase de développement des organes, de mise en place de ces organes. Eh bien, là aussi, il faut avoir les bonnes marques épigénétiques qui se mettent en place. Et puis après, la vie de l'individu. Donc, toutes ces phases-là, en fait, sont des phases de grande sensibilité. Et donc, ce qui est important, ce qui est à retenir, c'est que, en fait, on parle d'hérédité épigénétique. Parce qu'en fait, les marques qui vont s'apposer ici, par exemple, dans les cellules du foie, sont des marques qui vont pouvoir être conservées chez l'individu jusqu'à sa vie adulte. Alors, en fait, je pense que, clairement, les marques épigénétiques, bon, bah, c'est quelque chose, c'est de la biologie, hein, c'est rien d'autre. Quand je parle de défense du génome, et bien, en fait, ce qu'on sait, c'est dans le spermatozoïde, par exemple, où il y a fécondation, bien, le noyau du spermatozoïde est extrêmement compacté, et cette compaction du noyau, elle est, en fait, une façon de se défendre contre le milieu extérieur, puisqu'il va y avoir transfert de l'information génétique entre le spermatozoïde et l'ovocyte, donc il faut quand même que ça puisse, il faut au cas où, se soit préservé des attaques du monde extérieur. Du coup, cette compaction est dépendante des marques épigénétiques, elle va défendre le génome. Donc on a dit aussi que ces marques épigénétiques vont contrôler l'expression de gènes, et elles vont intervenir donc dans le développement embryonnaire, comme je vous l'ai montré, mais dans le vieillissement aussi, dans tous les problèmes de cancer, dans le développement de pathologies neurologiques ou psychologiques. Et une chose qui est importante en ce moment, c'est quand on vous parle de cellules souches, de reprogrammation cellulaire, là aussi, il faut que ça veut dire qu'on recrée ou on sélectionne des cellules qui en fait vont être capables, vont être dans un état épigénétique que l'on va qualifier de naïf, c'est-à-dire que a priori elles ne sont pas différenciées, et on va essayer ensuite de les redifférencier pour faire de la thérapie cellulaire, et donc les utiliser par exemple pour faire une thérapie musculaire ou hépatique, etc. Et en fait, ce qui est important aussi de voir, c'est que ces marques épigénétiques peuvent pérenniser l'effet d'un stimulus externe. Ça veut dire quoi? En fait, dans notre cellule, on fonctionne tous comme ça, c'est que quand il y a un stimuli, une hormone qui va passer, une molécule qui passe, il y a souvent ce qu'on appelle un récepteur à la surface de la cellule qui va capter cette information hormonale et qui va enclencher tout un mécanisme dans la cellule pour que la cellule puisse répondre à cette hormone. Mais ça, c'est quelque chose qui est donc sous l'effet d'un stimulus, qui est très très rapide, et une fois que on a répondu, on s'arrête. Et là, avec les marques épigénétiques, en fait, les choses sont un petit peu différentes, c'est-à-dire que sous l'impulsion d'un stimulus, il va y avoir des modifications au niveau du noyau, donc les petits drapeaux vont changer de place, ou ils vont être modifiés, les petits post-it, et ça va rester. Ça va rester au cours de la mitose, si la cellule se divise, et ça va rester toute la vie de la cellule. Voilà. Et donc ça, c'est une pérennisation d'un stimulus extrêmement important comme notion en biologie. Et alors, ce que je voulais vous illustrer cette notion-là, en prenant des jumeaux monozygotes. Donc les jumeaux monozygotes, c'est ce qu'on appelle les vrais jumeaux. Donc les vrais jumeaux sont des enfants qui ont été au cours du développement embryonnaire très très précocement, généralement avant le stade blastocyste que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a un clivage qui se fait en deux du blastocyste. Et donc, en fait, on va avoir naissance de deux individus qui ont exactement le même patrimoine génétique. Et en fait, dès la naissance, la plupart du temps, les jumeaux sont différents. Ils naissent avec un poids de naissance souvent différent. Et petit à petit, les parents se trouvent toujours des petites différences physiques. Et en fait, ces différences vont s'accroître au cours du temps sous l'effet de l'environnement. Et ces différences qui vont s'accroître, en fait, elles sont dues à la pérennisation des effets de l'environnement sur les marques épigénétiques qui vont s'accumuler comme ça au cours du temps. Et c'est comme ça que chez les adultes, les paires de jumeaux adultes sont des paires, en fait, où on peut retrouver un adulte, par exemple, chez les deux sœurs jumelles, on peut avoir une des sœurs qui va développer un cancer du sein, pas l'autre. On peut avoir un jumeau schizophrène et pas l'autre, etc. Donc ça veut dire qu'alors qu'ils ont exactement le même patrimoine génétique, ils ont eu un développement embryonnaire généralement du coup chez la même mère, en fait, ils peuvent, avec l'impact de l'environnement, avoir des marques qui vont s'apposer différentes et donc des cellules qui vont se fonctionner un peu différemment. Et donc cette mémoire cellulaire, elle va concerner aussi tout ce qui est exposition xénobiotique, aux pesticides, aux toxiques, tout ce qui est tabac, alcool, bon, ou alors avoir une hygiène de vie particulière, donc choisir entre manger des hamburgers ou manger du confit de canard, donc, par exemple, et ou faire du sport. Et donc en fait, tout ça, c'est aujourd'hui, c'est des choses qui sont intégrées dans la façon dont on pense la mise en place d'un certain nombre de pathologies, et en particulier quand on parle d'obésité, de diabète de type 2, des choses comme ça, ce sont des pathologies où en fait il n'y a pas de gène vraiment responsable de ces pathologies. Par contre, on a l'impression qu'il y a un ensemble de gènes, et si c'est un ensemble de gènes, pas forcément non plus avec des mutations, mais plutôt une expression des gènes qui est un peu différente d'un individu à l'autre. Et donc il y a Monsieur Barker qui a eu l'idée donc de mettre en place un concept qui s'appelle les origines développementales de la santé et des maladies. Et donc en fait ce concept est basé sur le fait que pendant tout le développement de l'individu, il peut y avoir en fait une mémorisation de tous les événements environnementaux, et que cette mémorisation des événements environnementaux peut avoir des conséquences sur le développement d'un certain nombre de pathologies à l'état adulte. Et en fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on s'aperçoit que non seulement c'est quand le fœtus est in utero que peut avoir se mettre en place ce genre d'impact, d'effet, mais aussi lorsqu'on s'adresse à la période, ce qu'on appelle périconceptionnelle, donc avant la conception, sur l'ovocyte, mais aujourd'hui aussi, messieurs, vous êtes concernés, sur les spermatozoïdes aussi. Donc c'est un combat pour tous. Alors en fait, ces idées-là proviennent d'analyses épidémiologiques qui ont été basées sur des cohortes. Donc c'est des analyses statistiques extrêmement compliquées qui essayent de tenir compte d'un maximum de paramètres et qui se basent sur des nombres très très importants de populations. Et donc Monsieur Barker en fait a eu accès à des relevés en Grande-Bretagne, donc des relevés de naissance entre 1920 et 1970, et pour lesquels il avait donc le poids de naissance des enfants, le contexte familial et leur devenir pour un certain nombre d'entre eux en termes de pathologie cardiovasculaire. Et donc ils ont pu mettre en évidence comme ça de manière très très bien corrélée que un petit poids de naissance était entraîné très souvent des pathologies cardiovasculaires chez l'adulte, voire aussi des problèmes d'obésité. Alors il y a une autre chose qui a été faite qui est un petit peu plus récente, c'est par exemple en janvier 98. Alors moi j'avoue que je me rappelais pas trop qu'il y avait eu cet événement, mais en fait il y a eu une grande vague de pluie verglaçante au Québec, et donc les gens sont restés sont restés sans électricité pendant pas mal de jours. Ça a été très compliqué. Vous voyez, tout était pris dans une gangue de verglas. C'était extrêmement impressionnant. Et en fait, il a pu être montré en s'intéressant donc aux femmes qui étaient enceintes à ce moment-là, qu'elles avaient subi évidemment un stress maternel assez important. Et on a pu montrer que ce stress maternel était associé à des séquelles physiques, cognitives et comportementales chez les enfants, une fois l'année suivante. Et les enfants ont été en fait suivis à 2 ans, 4 ans, 6 ans, et ils le sont encore, et comparés à une cohorte d'enfants qui étaient nés l'année précédente. Et là aussi, en fait, les études ont bien montré qu'il y avait des marques très très spécifiques sur les en prenant les cellules circulantes dans le sang de ces enfants, qui étaient différentielles entre les enfants de 98 et donc les enfants de 97. Pour les enfants dont les mères avaient eu ce stress comportemental. Et il y a eu aussi des données qui sont apparues en s'intéressant à des gens qui étaient nés de parents qui avaient subi la famine de l'hiver 44-45, qui avait été donc aux Pays-Bas, qui est une famille extrêmement vraiment de très 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 dure. Et en fait, ils se sont aperçus que des pathologies chez les enfants et les petits-enfants de ces personnes, il y avait une augmentation des pathologies cardiovasculaires très importante. Donc là-dessus, bien sûr, il y a eu plein de modèles animaux qui ont été mis en place, donc pour essayer de bien comprendre les mécanismes, essayer de voir à quel moment ça pouvait jouer, sur quels organes ça jouait, essayer de disséquer vraiment sur le plan moléculaire à quoi on s'attendait. Et donc en fait, on a bien démontré maintenant qu'il y a une vraie relation causale entre les manipulations de l'environnement maternel, au sens large du terme, et le développement de la pathologie dans la descendance. Et donc ce qui est important, c'est que ça veut dire que l'environnement, c'est la grosse flèche rouge ici, va toucher la mère pendant qu'elle porte un petit fœtus, mais ce fœtus, il a aussi des gonades, et en fait maintenant on sait que le fait que non seulement ce fœtus, une fois né, ça va faire la F1, et sur cette descendance-là, on va avoir des pathologies, mais en fait les gamètes de cette descendance sont impactées aussi, et donc peuvent aussi transmettre à la F2 donc un certain nombre de pathologies. Et alors je tiens à souligner qu'il n'y a pas que les femmes qui sont donc concernées, mais messieurs aussi, parce que ce qui a été démontré assez récemment, c'est que par exemple la nutrition chez un petit mâle, donc c'est un modèle de rat, si on fait une altération de la nutrition, donc soit une suralimentation, soit une sous-alimentation du rat avant la fécondation, eh bien il va y avoir une transmission à la descendance avec des perturbations. Alors donc dans cette manip là, c'était des perturbations du métabolisme hépatique, ça veut dire qu'un foie qui marche pas très très bien, des modifications des expressions gènes et des altérations épigénétiques. Alors j'ai mis modeste parce que c'est toujours modeste, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de fulgurant, c'est toutes ces histoires de petits drapeaux, c'est des choses qui sont très 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 subtiles à détecter déjà. Mais qui ont un impact important sur la santé de l'individu. Et donc ça, c'est une autre manip qui a été faite assez récemment, qui est aussi assez intéressante. Donc là, en fait, c'est des souris mâles qui sont aussi, on va dire, conditionnées en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on leur fait sentir une petite odeur, qui est plutôt une odeur tranquille, qui est plutôt agréable. Et en même temps, ils reçoivent un petit choc électrique. Donc en fait, très rapidement, ces souris, ces petits mâles, mémorisent le fait que quand il y a l'odeur, ils vont avoir un petit choc électrique, donc c'est quelque chose de négatif pour eux, ils le mémorisent très bien. Ensuite, on va croiser ces petits mâles-là, et on va regarder ce qui se passe chez leurs descendants mâles. Et dans ces cas-là, au lieu de faire un petit choc électrique, on présente l'odeur et on fait un petit bruit. Et en fait, ces petits mâles-là ont peur. Quand ces petits mâles-là reproduisent aussi, donc toujours avec des femelles qui, elles, sont, n'ont pas été embêtées du tout. Eh bien, ces petits mâles-là, en F2, ont aussi peur lorsqu'ils entendent le bruit. Donc ça veut dire clairement que là, on a eu une mémorisation du fait que cet odorant était signal de danger, et qu'ensuite, c'est quelque chose qui est transmis de génération en génération. Et évidemment, si on prend des individus d'une autre, de petits mâles, donc des grands-pères en F2, qui n'ont pas reçu qui n'ont pas été conditionnés de cette manière-là, eh bien, les petits mâles restent calmes. Alors ça, vous allez me dire, c'est très important parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on déterminait chez un modèle, dans un modèle animal, qu'il pouvait y avoir une transmission, donc, d'un comportement, d'une modification de comportement, d'une génération sur l'autre. Et donc ça veut dire qu'il peut y avoir une adaptation en fait. Alors bon, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est des recherches, vous voyez, qui sont très 2014, c'est celle de l'année dernière. Donc il faut évidemment que ce soit de ce genre de bon, c'est ça apparaît quand même dans un journal assez sérieux, c'est Nature Neuroscience, donc c'est pas n'importe quoi. Mais bien sûr, il faut continuer à faire des recherches pour vraiment caractériser ce processus-là. Mais dans ce cas-là, ils ont été jusqu'à déterminer de quelle manière en fait les spermatozoïdes de ce mâle-là étaient modifiés et transmis à la génération suivante. Oui, j'ai vu qu'il y avait une... Pardon. Ici? Non, pas que. Non, parce qu'il fallait. Il faut quand même que ce soit associé à un petit stress. Voilà. Bon, mais c'est donc le bruit donne du stress, mais pas forcément trop. Et mais le bruit associé à l'odorant, ça les stresse énormément. Pardon. Alors le support matériel, en fait, on pense que c'est dans les spermatozoïdes qu'il y a des modifications. Comment quoi? Alors exactement, j'y vais carrément. Donc c'est une méthylation d'un récepteur, d'un gène qui code pour un récepteur aux odorants. Voilà. Donc en fait. Alors non, en fait, disons que chez l'animal, ça a du mal à perdurer au-delà de la deuxième génération. Bon, il y a quelques données dans la littérature où on voit des choses à la troisième génération, mais bon, moi, je le prends encore avec des pincettes. Par contre, chez les plantes, c'est un mécanisme d'adaptation chez la plante qui est parfaitement décrit et qui marche très bien et sur des centaines et des centaines de générations. Voilà, donc bon, ce que je voulais essayer de vous dire, alors le message à ramener à la maison, en fait, c'est que l'épigénétique, il faut pas en avoir peur, hein, c'est un mécanisme biologique qui visiblement permet d'archiver, mémoriser les effets de l'environnement, mais comme je vous l'ai montré, hein, c'est un mécanisme qui est aussi entre guillemets naturel. Tout le développement embryonnaire est basé sur la mise en place d'un programme épigénétique. Ça permet une hérédité cellulaire, donc ça c'est établi. Ça permettrait une transmission à la descendance. Donc ça, oui, de manière très nette, quand il y a eu un stress, par exemple maternel, donc avec le fœtus in utero et une transmission jusqu'à la deuxième génération. Au-delà, on vient de le voir, c'est beaucoup plus difficile à mettre en évidence chez l'animal. Il y a des fenêtres de susceptibilité importantes. Donc c'est tout le développement embryonnaire, ça c'est clair. Mais par exemple, c'est en termes de fertilité, quand on fait la spermatogénèse chez l'homme, il y a toute une partie de mise en place du spermatozoïde. Alors de ça, la spermatogénèse, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un cycle de 70-75 jours. Donc il y a un renouvellement de spermatozoïde, mais à chaque renouvellement de spermatozoïde, en fait, il y a quand même la possibilité aussi. Il y a d'événements extérieurs, d'accidents qui vont faire qu'il peut y avoir perte de fertilité, transitoire certes, mais c'est une perte de fertilité quand même. Et donc ça, c'est souvent lié à des modifications épigénétiques. L'intérêt aussi de ces modifications, c'est que pour certaines, elles sont réversibles. Donc ça veut dire que on peut imaginer qu'en modifiant son rythme de vie, son style de vie, eh bien on va pouvoir avoir quelque chose de positif qui se mette en place et non pas quelque chose de négatif. Et puis les effets, eh bien il faut distinguer systématiquement des effets à court terme, moyen et long terme. Donc il faut avoir tout ça en tête, mais en mangeant sain, donc les cinq légumes, les cinq fruits anticancéreux, ça marche aussi pour avoir une bonne épigénétique. Mais pas que. Voilà, donc je voulais juste finir pour vous présenter bien Claudine Junien, qui est une personne qui en France a créé la société de la DOAD, hein, donc qui milite et qui travaille énormément sur ce concept d'origine développementale de la santé. Donc là c'est l'INRA de Join-Josas. Vous voyez, on est à la campagne, on est dans le sud de Paris, pas très loin de Versailles, avec sa petite église, il y a l'étoile de Jouy, ça se faisait aussi à Join-Josas. Et puis là, c'est toute mon équipe, c'est-à-dire tous les jeunes chercheurs, étudiants qui travaillent au laboratoire avec moi. Alors bon, moi je fais plutôt de l'épigénétique concernant les animaux à visée agronomique, plutôt chez le bovin, mais ici il y a Anne Gabory et enfin ces quatre filles-là. Donc Anne, Sarah, Paulina et Mélanie qui travaillent plutôt sur des modèles animaux pour essayer de mieux comprendre ces marques épigénétiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je vous donne la parole.
Qui veut prendre la parole ?
Oui, pas trop près, un peu. Mon micro est calé.
Voilà. Moi, je vais garder votre D'accord, merci. Oui, ça marche. C'est bon, vous m'entendez ou pas ?
Merci pour votre exposé. Si je comprends bien, grâce à ces nouvelles découvertes, on peut avoir l'idée que certains animaux peuvent s'adapter beaucoup plus vite à des modifications dans leur environnement que ce qu'on pensait avant, si on s'imaginait que les adaptations ne venaient que de mutations génétiques se produisant aléatoirement, etc., etc. Est-ce que alors ces découvertes modifient notre perspective sur la théorie de l'évolution ?
Alors, non. Ça ne modifie pas les perspectives sur l'évolution. C'est souvent présenté comme ça, mais je crois qu'il ne faut vraiment pas faire cette amalgame-là, dans le sens où, en fait, si éventuellement vous avez un individu qui a des marques épigénétiques un peu différentes, ses gènes vont s'exprimer un peu différemment, et ça va lui donner un avantage sélectif. Donc, lorsqu'il va se reproduire, eh bien, effectivement, il va pouvoir se reproduire plus et transmettre plus ses gènes. Donc c'est une superposition, ça s'ajoute. Il ne faut surtout pas les opposer.
Merci beaucoup. C'était un petit peu la même question, mais je me demandais si ça donnait raison à Lamarck sur l'hérédité des caractères acquis, un petit peu.
Un petit peu pour les plantes, peut-être. Bon, effectivement, les plantes, pour le coup, quand leur environnement change, il faut vraiment qu'elles s'adaptent très rapidement, sinon elles meurent. Mais je pense que c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui se met en plus. Il ne faut surtout pas les opposer. Et il ne faut vraiment pas voir dans l'épigénétique des anti-darwiniens. En tous les cas, moi, je ne suis pas anti-darwinienne, loin de là. Mais c'est des choses qui vont se coévoluer. Voilà. Et il y a une étude récente qui a été faite avec laquelle, vous savez, quand on est scientifique, on est toujours très critique de ce que font nos collègues, mais il y a une étude récente qui s'est intéressée aux pinsons de Darwin dans les Galapagos. Donc ils sont allés chercher des petits pinsons et ils ont fait des analyses génétiques, phylogénétiques, et donc ils ont regardé en fait quelle était la différence génétique entre ces différents pinsons sur les différentes îles.
Et ensuite, ils sont allés voir aussi, en termes d'épigénétique, ils ont regardé les choses qui sont assez sur l'ensemble du génome. Et ils ont pu redémontrer comme ça, ils vont faire aussi des analyses épiphylogénétiques, et ils ont pu démontrer que pour certaines des espèces de pinsons, il y avait plus de différences entre les marques épigénétiques qu'entre la génétique. Voilà. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est les deux. C'est-à-dire que vous avez les gènes, les mutations en général, le problème des mutations, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont silencieuses, heureusement, sinon on serait pas sondé. Et un certain nombre qui sont délétères, qui cassent nos cellules, voire qui cassent les individus, et quelques-unes qui permettent d'avoir un avantage. Mais on ne peut pas dire que ce soit énorme. Donc l'épigénétique, ça permet en fait ça donne une certaine flexibilité, une certaine plasticité, ça permet aussi, comme je vous disais, comme c'est quelque chose qui peut bouger un peu avec le temps en fonction de l'environnement. Si l'environnement s'améliore, il n'y en a plus besoin, donc voilà, ça va sauter et les gènes vont s'exprimer autrement.
Bonjour, merci pour votre exposé. J'aurais deux petites questions en rapport. C'est à propos des cellules souches. Si je me souviens bien d'un exposé de Marc Plechinski, on sait à partir de cellules pluripotentes faire certaines cellules, des cellules, je ne sais pas, de peau. Est-ce que c'est en rajoutant des marqueurs? Et est-ce que si on enlève les marqueurs d'une cellule de foie, on retourne à une cellule pluripotente? Et est-ce qu'on sait le faire?
Alors, oui. Donc, je vais répondre d'abord à la deuxième. Oui, on sait dédifférencier les cellules in vitro. Et on sait, donc, effectivement, actuellement, c'est une voie de thérapie cellulaire. Hein, c'est de prendre les cellules d'un patient, cellules de peau, les mettre en culture, les différencier complètement, modifier éventuellement les gènes pour le coup qui sont pathologiques, et ensuite redédifférencier ces cellules. Voilà, ça c'est ce que les gens aimeraient bien faire, mais on n'y est pas encore, mais c'est ce qu'on veut faire. Pour l'instant, en termes de type marque sur l'ADN, on sait, on induit des modifications. En ajoutant dans les milieux de culture un certain nombre de molécules qui agissent donc par les voies classiques récepteurs dans les cascades intracellulaires. Les molécules qui vont aller agir directement sur les enzymes qui permettent les modifications épigénétiques, il y en a. Il y a des essais qui sont faits, mais c'est en cours. Voilà, c'est pas pour l'instant, c'est pas du tout utilisé au quotidien, enfin en routine. C'est vraiment des essais de laboratoire.
Bonjour. Par rapport aux phobies des personnes qui n'en connaissent pas l'origine, est-ce que ça peut être transmis par les descendances comme vous l'avez expliqué tout à l'heure?
Un peu le secret familial, des choses comme ça, c'est ça?
Non, des personnes qui ont des enfants, par exemple, qui ont des phobies pour les souris ou les petits rats, est-ce que ça peut être transmis justement dans ces gènes par, comme vous avez dit?
Alors, les phobies, je ne peux pas vous répondre. Par contre, ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il y a pas mal de pathologies psychiatriques. La schizophrénie, par exemple, visiblement, c'est la schizophrénie, l'autisme, le syndrome maniaco-dépressif sont des souvent associent donc des problèmes épigénétiques au niveau de cérébral. Éventuellement, on peut imaginer que un traumatisme maternel pendant la grossesse puisse être transmis au fœtus. Donc ça, en modèle animaux, il y a des exemples, c'est-à-dire qu'on va se stresser des petites souris pendant qu'elles sont en gestation. Et ensuite, on regarde, donc on va les comparer, on va avoir un groupe contrôle qui ne sera pas stressé, et ensuite on va regarder dans la descendance, les souriceaux, qu'est-ce qui se passe? Comment répondent-ils au stress? Eh bien, on s'aperçoit que les souriceaux de maman stressée sont beaucoup plus stressables que les souriceaux de maman non stressée. Donc, et ça, bon, évidemment, chez un animal, on peut aller disséquer les et savoir que, ce qui se passe vraiment, et on a bien montré qu'il y avait des modifications de, au niveau cérébral aussi, d'un certain, de, des modifications épigénétiques qui vont permettre l'expression de certains gènes. Après, la, la phobie, c'est, il faudrait peut-être quand même qu'il y ait eu un événement à un moment donné. Qu'on échange justement pas. Oui,
ça peut venir des grands-parents quand même, pas, pas directement de la maman quand même, non?
Ben, vu ce qu'on voit avec la transmission, donc dans le cas de la famille, la famine dans les Pays-Bas, il y a quand même, c'est dans, chez les petits-enfants où on voit qu'il y a des pathologies cardiovasculaires qui visiblement viennent du fait que la grand-mère a, a subi un stress et une famine. On peut imaginer que ça peut marcher aussi comme ça, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de, de démonstration fiable.
Bonjour, merci pour votre exposé. Moi, j'aurais deux questions. Alors, si je me rappelle bien mes cours de biologie au lycée, on m'avait appris que chez la femme, en fait, la femme naissait avec un nombre d'ovules prédéfinis, en fait, au niveau des ovaires, et que chez l'homme, vous l'avez redit tout à l'heure, en fait, le matériel génétique et les gamètes, en fait, enfin, pas les gamètes, les spermatozoïdes, en gros, ce, il y avait une création et un renouvellement du stock. Donc, première question, est-ce que ces connaissances-là ont été remises en cause, ou est-ce que c'est toujours d'actualité? Et du coup, la deuxième, vous parliez donc de stockage de l'information épigénétique, également aussi de que ça pouvait évoluer. Est-ce que ça revient à dire, si chez l'homme, le stock de spermatozoïdes est renouvelé plus souvent, est-ce que l'homme est plus sensible au niveau de l'épigénétique à l'environnement que la femme, ou est-ce qu'il n'y a aucune différence au niveau de, la, de l'impact?
Alors oui, les, vos connaissances sont toujours les bonnes, il n'y a pas de problème, on n'a jamais, on n'a pas remis en cause ce genre de choses. Donc effectivement, donc, la femme naît avec un stock d'ovocytes, hein, mais qui est dans un état pas tout à fait mature. Et c'est à chaque cycle, il y a une maturité qui se, fait, qui se met en place pour pouvoir avoir un follicule ovarien qui va ovuler et donc produire un ovocyte prêt à être fécondé. Et chez l'homme, donc, il y a un stock de, spermatocytes, je l'appelle. Donc c'est des cellules souches qui sont elles aussi un peu avancées et qui vont à la puberté de rentrer dans un cycle de maturation et pour donner le spermatozoïde. Donc en fait, je dirais que les, dans, aussi bien chez l'homme que chez la femme, il y a quand même des cellules dans des états, des stocks, on va dire. Donc chez l'homme, c'est plus des cellules souches et chez la femme, donc moins différenciées, et chez la femme, un peu plus différenciées. Par contre, les étapes de marque, d'apposition des marques épigénétiques, elles sont pas exactement les mêmes chez l'homme et chez la femme, ça se fait pas exactement au même moment. Donc chez l'homme, il y a toute une grosse partie d'apposition de marques épigénétiques qui se fait pendant la vie fœtale et qui sont déjà présentes sur le stock de cellules souches, alors que chez la femme, la maturation épigénétique, elle se fait à chaque cycle ovarien. Voilà, donc je pense que clairement, on peut pas dire que qu'il y ait une étape ou une gamétogénèse qui ferait que l'homme soit plus sensible que la femme ou vice-versa. Ça se fait pas au même moment. Et donc, mais c'est des choses auxquelles il faut penser lorsqu'on regarde les effets de l'environnement sur la fertilité, par exemple.
Oui, bonjour. Moi, ma question, c'était par rapport donc, à l'hérédité des marques épigénétiques qu'on reçoit de nos parents, de nos grands-parents. Vous avez dit qu'il y avait un moyen de peut-être de supprimer les marques acquises durant notre existence par une nourriture plus saine ou autre. Mais par contre, est-ce aussi possible de supprimer par la conscience, enfin par le fait d'apprendre que, par exemple, nos parents ont subi un grand stress pendant la conception, enfin pendant le développement de l'embryon, et en connaissant ce stress-là, y a-t-il moyen, par exemple, de faire supprimer ces marques épigénétiques qui nous embêtent?
Non. Clairement, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que pour l'instant, c'est des choses que l'on n'a pas bien identifiées pour l'instant précisément. mais c'est des choses qui vont être faites avec les modèles animaux. Qu'est-ce que sont ces marques? Et donc peut-être qu'un jour, éventuellement, on pourra effectivement considérer que à partir du moment où il y a eu un certain stress pendant la grossesse, il est indiqué de prendre une molécule qui va permettre de modifier légèrement certaines marques épigénétiques. Mais non, c'est encore, il faut le mettre en évidence déjà dans l'animal. Il faut vraiment bien identifier quelle marque, à quel niveau, à quoi ça sert, pourquoi, etc. pour pouvoir le faire. Mais on voit que c'est quelque chose qui se met en place quand même. Il faut en avoir conscience. Quoi. Voilà.
Oui, je vous remercie de vous exposer aussi. Quand on regarde ces recherches, elles cherchent finalement à mesurer un impact environnemental provoqué sur un rat, admettons, et les conséquences sur sa descendance, qui sont toutes forcément un peu négatives, je pense. Est-ce qu'on pourrait imaginer le contraire? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'analyser, le caractère positif d'un environnement? Je pense par exemple à un milieu de silence, de choses comme ça, voire de musical, je ne sais pas, qui serait positif sur ensuite le comportement, soit d'une plante, soit d'un animal. C'est-à-dire raisonner presque un peu à l'inverse de ce qui est apparu là.
Donc oui, on peut faire bien sûr qu'on peut essayer de faire des expériences animales dans l'autre sens, et d'ailleurs bon, il y en a quand même pas mal qui sont faites. Et bon, là je pourrais citer juste une expérience qui est en cours. Hein. On s'aperçoit, vous savez que bon, il y a quand même une épidémie d'obésité dans le monde. Avec donc des gens qui sont en surpoids et qui ont des problèmes en fait souvent pour avoir des enfants. Et donc les femmes qui sont en surpoids, qui présentent une certaine stérilité, on leur conseille de perdre du poids. C'est simple, vous perdez du poids, vous revenez dans 6 mois, ça ira mieux. Et effectivement, en perdant du poids et en revenant 6 mois après, ça va mieux. Mais on n'a jamais vraiment on essaye de savoir actuellement pourquoi ça va mieux. Et surtout si cette perte de poids très brutale, est-ce que ça a une conséquence sur le bébé, qui va être mis en route dans ces conditions-là? Parce que bon, la femme, elle est peut-être obèse, mais elle a un certain métabolisme qui est établi. Si on modifie de manière drastique son métabolisme juste avant de faire le bébé, ça risque d'avoir de poser quelques problèmes. Donc il y a des manips qui sont faites en ce moment justement pour essayer de bien comprendre. Si on fait cette perte de poids, si on donc qui favorise la fertilité des femmes, est-ce que ça n'a pas d'autres conséquences? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je peux vous dire que bon, on travaille là-dessus en ce moment et ça a l'air pas mal. Ça a l'air bien. Voilà, les enfants, on a plutôt des effets favorables sur la descendance. J'ai répondu.
C'est par rapport à la fois la fertilité et l'épigénétique. Quid des toxiques si la mère ou le père, en fait, ont fumé, que ce soit beaucoup de tabac ou de cannabis? Et est-ce qu'il est encore temps d'arrêter de fumer à la fois pour les parents pendant la grossesse? Est-ce que c'est irrémédiable? Pareil pour l'exposition à l'alcool de la mère pendant la grossesse. Est-ce qu'on a des données, ou alors est-ce qu'il faudrait vraiment supprimer l'entourage, le tabac dans l'entourage global? Et aussi à propos de la fertilité, justement chez les hommes qui fument, il y a une baisse de la fertilité, donc est-ce que c'est réversible et au bout de combien de temps?
Donc en termes de fertilité, vous savez qu'on considère actuellement qu'il y a une baisse de la fertilité masculine assez importante, et il y a aussi une baisse de la fertilité dans certaines espèces sauvages. Donc clairement, il y a un effet des toxiques, des pesticides, et c'est démontré aussi que cet effet peut passer. Alors il y a tout ce qui est perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans la nature en fait avec des molécules qui ressemblent aux stéroïdes humains, enfin stéroïdes, donc testostérone chez l'homme et œstrogène chez la femme. Donc ça, c'est directement des problèmes d'hormones. mais on sait aussi que certains de ces pesticides peuvent aussi avoir une influence négative sur les marques épigénétiques et donc perturber la fertilité. Donc ça, oui, il y a un problème de fertilité. Pour le tabac, c'est démontré aussi qu'il y a des problèmes de marques épigénétiques, l'alcool aussi. Mais je pense que pour le tabac, je pense que c'est réversible. Pour l'alcool, c'est rarement réversible. Il faut quand même bien savoir qu'un bébé qui est conçu dans un milieu, dans un environnement alcoolique, il peut quand même avoir forcément des perturbations de tout le développement neurologique dès le départ. Et ça, ces développements-là, ces perturbations-là, elles ne sont pas réversibles. La démonstration d'une transmission à la génération suivante, elle n'est pas faite. Mais le problème, c'est que, vous savez que les enfants qui naissent de mères alcooliques sont alcooliques à la naissance. Donc il y a toute une part. Donc si on veut sauver l'enfant, il y a toute une part période de sevrage complet, c'est très compliqué. Et savoir si après, dans cet environnement-là, l'enfant devenu grand ne sera pas alcoolique lui-même, c'est difficile. C'est difficile de dire que c'est de l'épigénétique. Moi, je veux dire, il y a aussi tout le contexte familial dont il faut prendre en considération.
Bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Je vais reprendre une question qui a été déjà posée par deux personnes, la dame à ma gauche, il me semble. Mais par rapport au caractère, dans l'expérience avec les souris, vous avez montré que un caractère, la peur par exemple, un son se reproduisait de génération en génération. En fait, je me demande si ça valide pas une idée reçue qu'on pourrait avoir sur le fait que certaines personnes transmettent des gènes, non pas des pathologies physiques ou psychologiques, mais peut-être plutôt des caractères. Alors je pense, moi par exemple, est-ce que une famille dans laquelle la violence est très prononcée, est-ce qu'elle va pouvoir développer de manière transgénérationnelle ce caractère de la violence? Et donc, est-ce que ça se transmettrait? Est-ce que ça validerait pas cette idée reçue du fait que certaines populations transmettent certains caractères? Voilà.
Donc, je pense qu'il faut faire très 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 attention avec tout ce qui est transmission génétique, hein, et la transmission épigénétique, c'est la même chose. Hein. Il n'est pas question de faire un catalogue de choses à transmettre et à transmettre, et donc après sélectionner les gens en fonction de... voilà. Mais ceci dit, on a des gènes. Chacun de nos gènes sont porteurs d'informations et vont être exprimés à des niveaux différents. Le fait qu'ils soient exprimés à des niveaux différents, ça c'est des marques épigénétiques. On peut imaginer très bien que effectivement dans un contexte de violence familiale, par exemple, il y a un stress qui va induire forcément des modifications au niveau de l'expression des gènes. Et ça, ce stress-là, il va être plus ou moins mémorisé. Et moi, je n'exclus pas que ça puisse être mémorisé et transmis. Mais pas forcément transmis dans un sens, on est violent, on reste violent à travers X générations. Ça peut être aussi une façon de faire en sorte de se préserver de la violence. Donc, voilà. De toute façon, il faut pas faire de grandes généralités. Il faut surtout pas considérer que les gens vont être juste des cartes d'ADN avec des numéros de gènes et puis sur lesquels on mettrait une carte épigénétique. Donc, il ne faut pas avoir les gens comme ça. Bon, après, il y a tout le contexte dans lequel on vit, le contexte familial, l'éducation, la culture. Donc, tout ça, si on est homme, c'est aussi, il faut en tenir compte.
Bonjour, j'aurais une question sur la recherche en épigénétique et sur est-ce que vous pensez que à terme on pourrait de cette recherche on pourrait dégager par exemple des normes d'alimentation idéales ou d'environnement idéal pour le développement de l'homme?
Je pense que c'est un petit peu ce qui se profile à l'horizon quand même aussi. Il y a de l'épigénétique, mais de manière générale, hein, c'est avoir des recommandations de vie, façon de vivre, oui, bien sûr, en alimentation en particulier, bien sûr. Mais c'est de manière générale, c'est pas que pour l'épigénétique, c'est aussi un problème de métabolisme global.
J'avais une question à propos de ce que vous aviez montré sur les enfants qui avaient un petit poids à la naissance et puis qui développaient par la suite des maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'on sait si ça c'est lié à la nutrition de la maman, par exemple, comme dans le cas de la famine hollandaise pendant la grossesse, ou quelle que soit la cause, des enfants de petit poids développent de toute façon des maladies cardiovasculaires?
Alors, déjà, je réagis tout de suite sur le « de toute façon ». Donc, il n'y a pas de « de toute façon ». Il faut surtout prendre toutes ces analyses-là de manière avec du recul. Hein. C'est des moyennes, c'est par rapport à des énormes cohortes. Donc, évidemment, vous allez trouver des enfants qui ont des tout petits poids de naissance, qui iront très bien, qui seront centenaires. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont naître avec un bon gros poids de naissance et qui vont se retrouver à faire une pathologie cardiovasculaire. D'accord ? Donc, il faut toujours faire attention avec ce genre de données. Ceci dit, on sait vraiment que ça... Enfin, c'est vrai que la seule chose que ça dit, c'est un enfant qui naît avec un petit poids de naissance, soit parce que la mère a eu des problèmes de nutrition, soit parce que au moment du développement du placenta, le placenta qui est cet organe qui va faire la jonction, qui va permettre le passage des nutriments de la mère vers le bébé. Bon, cet organe se développe pas très bien, il est pas très efficace, etc. Donc ça donne souvent des enfants à petit poids de naissance. Et bien, la seule chose à faire, c'est surveiller ces enfants. Donc avoir une position de prévention et voir comment les choses évoluent. Mais c'est surtout préventif dans cette campagne. Il faut avoir une position de préventive. Oui.
Bonjour. Est-ce que l'épigénétique nous renseigne sur les parties non codantes de l'ADN, c'est-à-dire les exons? Est-ce que les recherches nous permettent d'avoir un peu une idée sur les parties de l'ADN qui ne sont pas transcrites, traduites?
Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que l'ADN, donc c'est un peu de gènes, mais pas beaucoup en fait. Donc il y a énormément d'ADN qui, pour l'instant, la fonction de cet énormément d'ADN n'est pas vraiment connue. Donc on commence à avoir des idées, mais il y a beaucoup de parties de l'ADN qui ne sont pas connues. Et donc en fait, l'épigénétique, ça sert surtout au niveau de l'ADN à déterminer des grandes portions qui vont de gènes qui vont être exprimés, de gènes qui vont pas être exprimés. Et ça va bouger dans le noyau. Donc c'est quelque chose qui est très dynamique. Et qui va être et qui va changer au cours du temps. Et donc des marques épigénétiques sur les portions non codantes de l'ADN, oui, il y en a beaucoup, il y en a énormément, et ça permet d'avoir une structure particulière dans le noyau. Et enfin, je sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai montré une cellule, je vous ai mis il y avait un noyau d'une partie toute noire au milieu de la cellule. Et en fait, cette partie noire, elle n'est pas complètement noire. Si on regarde, il y a des zones très très noires, donc opaques à la lumière, quand on regarde ça sous un microscope, et des zones plus claires. Donc les zones qui sont très noires sont des zones très condensées qui ne laissent pas passer la lumière, et qui sont donc des zones d'ADN qui ne codent pas pour des gènes à ce moment-là. Et donc c'est les marques épigénétiques qui permettent en fait cette condensation d'ADN.
Merci à vous. Est-ce qu'on sait comment est-ce que l'ADN est méthylé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des enzymes qui interviennent, ou est-ce qu'on connaît ces enzymes? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Comment elles fonctionnent? Est-ce comment l'environnement les modifie, tout ça?
Alors, en fait, il y a deux grandes familles d'enzymes. Il y a des enzymes qu'on appelle de méthylation de novo. C'est-à-dire que c'est des enzymes qui vont être capables de reconnaître sur l'ADN des motifs particuliers. Donc c'est sur les cytosines qui sont inclus dans un dinucléotide CG. D'accord. Donc ces enzymes vont reconnaître les cytosines dans ce cas-là et vont mettre un méthyl, donc c'est un CH3, c'est un groupe méthyl. Et elles vont faire ça de part et d'autre de l'ADN, parce que l'ADN c'est une boucle lisse. Et systématiquement, donc chez les mammifères, c'est symétrique. Chez les plantes, c'est pas tout à fait pareil. Il y a aussi de la méthylation non symétrique, et dans d'autres motifs aussi. C'est beaucoup plus compliqué là, chez les plantes. Mais en tous les cas, chez les mammifères, c'est symétrique sur les cytosines. Et puis après, il y a des enzymes, qui, une enzyme qui, qu'on appelle de méthylase, une méthyltransférase de maintien. Et alors celle-là, c'est une enzyme qui est extrêmement importante. C'est celle qui va faire que les cellules, après la mitose, vont garder la mémoire de leur état de méthylation. Parce que, en fait, c'est une enzyme qui reconnaît, une fois que quand vous avez une mitose, vous avez une duplication des brins d'ADN. Donc, vous avez, chaque brin d'ADN se sépare, il se duplique. Et donc, il y en a, pour chaque duplicat, on va dire, il y en a un qui va être méthylé, l'autre qui ne sera pas méthylé. Et donc, cette enzyme reconnaît ces sites-là et va être capable de reméthyler de l'autre côté pour retrouver une méthylation symétrique. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est le maintien de la méthylation, c'est le maintien de la mémoire. Dans ces cas-là.
Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à qu'est-ce que c'est en fait un chromosome, parce que l'ADN, on m'a toujours dit que c'était le livre de recettes de chaque individu. Donc, j'ai du mal à visionner ce qu'est un chromosome.
Des morceaux d'ADN, en fait.
C'est des, voilà. Morceaux, c'est des chapitres du livre, en fait.
Voilà. On va dire ça.
Par rapport à la méthylation, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un stress? Parce que là, du bruit, en fait, le stress, le bruit, c'est un stress, une mauvaise odeur, c'est un stress, les paroles agressives, c'est du stress, et tout ça, la seule chose que ça fasse, ça fait de la méthylation de...
Ah non, c'est pas la seule chose. Disons que la...
Enfin, c'est des événements marquants, ou de la violence, ou des paroles qui nous marquent pour plusieurs années, alors c'est... Enfin, et qui marque pour le reste des générations. Alors c'est, je sais pas, comme les gros, les Arméniens ou qui gardent. Enfin bon, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont traumatisés à vie toutes les générations. Alors est-ce que c'est la méthylation?
Si vous faites référence à des il y a une culture de la, une mémoire. Mais la mémoire des cellules, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que, éventuellement, si vous avez un gros stress un jour, vous avez tout votre organisme, face à un stress, n'importe quel animal est prêt à pour réagir. Alors, il ne réagit pas forcément bien, mais vous allez avoir de la tachycardie, augmentation de la chaleur, une mobilisation musculaire, etc. Donc, face à un stress, tout notre organisme réagit. Et donc, avec un stress répété, on peut imaginer qu'il y ait éventuellement des modifications qui se mettent en place et qui vont modifier la façon dont on réagit. Voilà. L'épigénétique va intervenir là, mais de toute façon, face à un stress, on est prévu pour réagir. Bah, pour certaines choses, oui, visiblement, on va pouvoir penser. Mais comme je disais, l'étude que je vous ai présentée chez la souris, avec cette histoire d'odorant et de choc électrique et puis après de petits bruits, c'est démontré chez la souris, c'est quelque chose d'extrêmement pointu comme modification. C'est pas tout le profil épigénétique de l'individu qui est modifié, c'est très pointu. Et on va avoir du mal à le démontrer chez l'homme parce que bon, pour aller chercher ce genre de choses, ça sera difficile.
Et épigénétique côté positif, l'inverse, alors ça peut marcher
oui,
en améliorant.
Sûr. Oui,
et la Madeleine de Proust, on commence à comprendre alors.
Mais la Madeleine de Proust, toutes les histoires de récepteurs olfactifs et de mémorisation des odeurs que l'on associe avec un contexte agréable ou pas agréable. Mais en général, la Madeleine de Proust, c'est l'individu, c'est le passé. Oui, puis c'est l'individu lui-même, c'est pas la génération suivante.
On va peut-être passer à la dernière question.
Oui, alors j'ai deux petites questions. La première, c'est par rapport à l'expérimentation qui a été faite sur les souris, est-ce qu'il y a eu un seul choc électrique ou est-ce que ça a été répété? Et l'autre chose, c'était juste sur l'origine de ces recherches. Est-ce qu'on sait ce qui a amené à chercher ce genre de choses au niveau épigénétique?
Donc oui, c'est un apprentissage. Hein. Donc il n'y a pas qu'un seul choc électrique. C'est un apprentissage parce que pour que l'odorant au départ n'était pas une odeur désagréable. Donc c'était une odeur d'alimentation. Donc en fait, la souris avait plutôt tendance à aller vers cet odorant, et donc il faut qu'elle apprenne. Donc il y a eu plusieurs chocs. Bon, ensuite, c'est pour essayer de vraiment comprendre justement ces histoires de transmission. Est-ce que c'est possible ou pas possible? Et donc là, apparemment, c'est possible.
Bon, il y a une question encore, apparemment.
Je me demandais si cette découverte permet donc de justifier l'utilisation de la psychanalyse ou de l'hypnose, par exemple, en considérant donc qu'il y a eu un stress pendant, in utero, et pas forcément la psychanalyse et l'hypnose comme moyen de guérison, mais au moins comme utilisation pour expliquer un stress qui provoque des maladies ou des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue?
Je pense qu'on peut, penser que, mais pour l'instant, c'est pareil, c'est toujours la même chose, c'est que ces modifications épigénétiques, elles existent, elles sont subtiles, mais elles vont, pour le coup, elles ne risquent pas d'être explicatives du pourquoi on ressent un mal-être, par exemple, et qu'on est obligé de consulter. Ça me paraît difficile pour l'instant d'imaginer ça. Mais oui, ça peut être, ça permet, ça serait une façon de mémoriser une vie pré-naissance, quoi. Voilà.
Ben,
merci à tous.
Un grand merci à Hélène James pour son exposé. Que vous pouvez peut-être prolonger si elle accepte de se faire offrir un thé à la cafétéria.